Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Quatre boulons manquaient sur le 737 d'Alaska Airlines, dont une porte s'était détachée en pleine ascension de l'avion le 5 janvier dernier. C'est la conclusion de l'enquête de l'Agence américaine de sécurité des transports.
Y a-t-il des boulons pour maintenir la porte ? Ce n'est pas un remake du film Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Mais une mésaventure arrivée en début d'année à un Boeing 737 MAX d'Alaska Airlines. Il n'y a pas eu de drame, fort heureusement. Les passagers en ont été quittes pour une grosse frayeur. Mais cet arrachage de porte en plein vol témoigne une fois de plus des difficultés de Boeing, alors que l'avionneur américain accumule les problèmes depuis 5 ans.
Qu'est-ce que tu fais là-haut ? Qu'est-ce que tu fais ?
Je cherche le boulon, là.
Ils sont braves.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Tous les jours, la rédaction du journal se mobilise pour vous raconter l'actualité économique, politique et sociale. Retrouvez-nous tous les soirs à 17h sur leséchos.fr et sur les plateformes de téléchargement et de streaming.
Alors que son entreprise est en pleine tourmente, le patron de Boeing vient d'annoncer sa démission. Il quittera ses fonctions fin 2024, 3 ans après le crash d'un 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines qui avait fait 157 morts. La crise se prolonge chez Boeing. Plusieurs incidents sont survenus ces derniers mois, comme sur cette vidéo qui avait fait le tour du monde en janvier. La porte d'un 737 MAX s'était décrochée en plein vol.
L'avion perd une porte et quelques semaines plus tard, c'est le président de Boeing qui prend la porte. Les ennuis s'accumulent pour le constructeur de Seattle et ils ne sont peut-être pas terminés, alors que les autorités américaines ont ouvert plusieurs enquêtes sur des incidents à répétition. Certains graves, d'autres de l'ordre de l'anecdote et dont on n'aurait jamais parlé dans des temps cléments. À l'image de ce dernier incident, mineur mais odorant, le 29 mars, un vol United Airlines au départ de Francfort et à destination de San Francisco a dû faire demi-tour en raison de toilettes défectueuses à bord d'un Boeing 777. Le réservoir a débordé, comme la patience des marchés financiers à l'égard de cette entreprise phare du Dow Jones. En 5 ans, l'action Boeing a perdu la moitié de sa valeur. Bonjour Bruno Trévidic.
Bonjour.
Spécialiste de l'aéronautique aux Échos, depuis 2018, Boeing fait face à une véritable série noire.
On peut même remonter au-delà de 2018. 2018, c'est le début de la crise du MAX, avec ces deux accidents tragiques fin 2018 et 2019 qui mettent en lumière un défaut de conception de l'appareil. Mais bien avant la crise du 737, on a d'abord eu la crise du 787, le Dreamliner, qui a accumulé les années de retard et qui a commencé sa carrière par être cloué au sol par l'aviation civile américaine, déjà à l'époque, de fait de défaut de conception. En fait, il y a beaucoup d'observateurs aux États-Unis qui font remonter le début de la crise de Boeing à 1997, avec le rachat de McDonnell Douglas, qui va voir arriver au pouvoir, enfin aux manettes, des dirigeants issus de la sphère financière qui vont quelque part modifier le pouvoir au sein de l'entreprise entre les financiers et les ingénieurs. Alors c'est très schématique, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, il y a un certain consensus pour dire que la crise chez Boeing est assez ancienne.
Aux États-Unis, 171 avions sont cloués au sol depuis hier soir, tous les Boeing 737 MAX 9. L'autorité américaine de l'aviation civile a ordonné de les mobiliser temporairement après qu'un hublot se soit détaché en plein vol hier.
Le 737 MAX, symbole des difficultés de Boeing, comme on l'entend ici sur la RTBF en début d'année. Le groupe américain est d'ailleurs dans le viseur de la FAA, c'est l'Agence américaine de l'aviation civile, mais aussi du NTSB, c'est le Bureau de sécurité aérienne. Et les deux agences ont publié des rapports sur ces incidents. Que conclut-il ?
L'enquête technique sur l'accident mené par le NTSB, l'équivalent de notre BEA, conclut que ce défaut d'assemblage de la porte, enfin des panneaux de porte, c'est un panneau qui obturait une porte, et de la responsabilité de Boeing, que la malversation, si je puis dire, s'est produite dans l'usine Renton de Boeing, où sont assemblés ou repris les 737. Donc c'est bien de la faute d'employés de Boeing. Pour ce qui est de l'enquête de la FAA, c'était un audit qui avait été lancé en fait avant ce dernier accident, enfin ce dernier épisode, et qui s'intéressait donc à la maîtrise du contrôle de qualité chez Boeing, et qui concluait déjà, enfin qui a conclu du moins, et qui mettait déjà en lumière des problèmes de contrôle de la qualité, d'incompréhension de la politique de contrôle de la qualité chez les salariés. Bref, un problème de, je dirais, comme on dit, de culture d'entreprise ou de formation.
Justement, comment en est-on arrivé là ? Comment Boeing on est arrivé finalement à accumuler ces problèmes d'ordre technique ?
Question très difficile à répondre, parce que finalement y répondre, c'est probablement échafauder des solutions. Il y a deux choses qui sont structurelles chez Boeing. D'une part, au cours des dernières décennies, ils ont délégué à des sous-traitants une grosse partie de la fabrication de leurs avions. Et c'est quelque chose qui avait déjà été pointé du doigt s'agissant des problèmes du 787, qui était sous-traité à 70%. Et c'est quelque chose qui a été de nouveau mis en avant avec ces problèmes du 737 MAX, parce qu'on a mis en cause le principal sous-traitant de Boeing dans cette affaire, Spirit AeroSystems. On s'est demandé à un moment donné si ce n'était pas chez eux qu'avait été fait cette erreur. En définitive, ça n'est pas le cas, mais Boeing a quand même éprouvé le besoin d'annoncer le rachat de Spirit AeroSystems. Donc, quelque part, une espèce, je dirais, de délégation de tâches critiques à des sous-traitants qui peut être éventuellement problématique et qui avait été justifié par des raisons financières. L'autre point, qui n'est pas propre à Boeing, c'est certainement la longue crise de la Covid, la baisse de la production qui l'a accompagné, voire même l'arrêt de la production s'agissant du 737, et qui a certainement provoqué une sorte de perte de compétences ou de perte de motivation, ou les deux, aggravée en plus par le départ de milliers d'anciens de chez Boeing qui ont profité en quelque sorte des plans sociaux pour partir à la retraite un peu avant. Donc beaucoup de gens sont partis. Ceux qui sont arrivés, des jeunes, sont pas forcément tout à fait formés, ont pas forcément complètement intégré encore l'impératif de qualité et de perfection dans le travail. Voilà, ce sont des tentatives d'explication. Après, tout est possible.
Alors en attendant, le groupe pourrait être sanctionné par la FAA dans les prochaines semaines. Que risque le constructeur américain ?
Beaucoup de choses, je dirais. Le principal problème, enfin la principale menace que je vois, c'est que donc Boeing avait obtenu de la justice américaine, et non pas de la FAA, une sorte de coup d'éponge après les deux crashs du 787. En fait, Boeing avait plaidé coupable, en quelque sorte, et contre une grosse amende de 2,5 milliards de dollars au total, la justice américaine avait décidé qu'il n'y aurait pas de procès. Donc, c'est une procédure qui est courante aux États-Unis et qu'on a importée chez nous également. Cette procédure-là était, je dirais, conditionnée à une sorte de période de probation de 3 ans, durant laquelle Boeing, en gros, devait se tenir à carreau. Et manifestement, manque de chance, où il s'est produit ce qui devait se produire, Boeing a de nouveau des incidents liés à des mauvaises pratiques. Ces faits pourraient conduire le ministère de la Justice, la justice américaine, à revoir à l'accord passé avec Boeing, qui, du coup, se retrouverait rattrapé, en quelque sorte, par ces affaires anciennes, et cette fois non plus pour une amende, mais pour un véritable procès pénal avec la responsabilité des dirigeants mis en cause.
Ouais, ce serait la porte ouverte, j'imagine, à des procès. Et les avocats se préparent ?
Alors, il y a d'ores et déjà des armées d'avocats qui accompagnent les familles des victimes des crashs d'Ethiopian et de Lion Air, qui n'ont jamais totalement désarmé pour une partie d'entre eux, même s'il y a eu des accords à l'amiable et des indemnisations. Il y a la justice américaine elle-même, ou quelques procureurs qui commencent effectivement à regarder s'il n'y aurait pas là matière à réouvrir le dossier. Et on a même le FBI qui est entré remettre dans la danse en prenant contact avec les passagers du vol Alaska Airlines, donc qui avaient vécu cet épisode du panneau de porte arraché, pour évoquer avec eux la possibilité de poursuite pénale. Donc beaucoup, beaucoup de gros nuages noirs. Et effectivement, quand on en arrive au stade du procès pénal aux États-Unis, là, je dirais qu'il y a matière à souci pour l'entreprise et ses dirigeants.
Boeing president and CEO Dave Calhoun announced today he will step down at the end of this year. It comes after a number of incidents recently involving Boeing planes, including the Alaska Airlines mid-flight door blowout in January.
Le double crash des Boeing 737 MAX en 2018 et 2019 avait coûté son poste à Dennis Muilenburg, président du groupe depuis 2015. Les récents incidents ont aussi poussé son successeur a annoncé sa démission, comme on l'a entendu sur la chaîne ABC. Sa position n'était plus tenable, comme me l'a expliqué Véronique Le Billon, correspondante des Échos à New York.
Alors le 25 mars, Boeing a annoncé la démission de David Calhoun, hein, le patron du groupe. Et c'est pas le seul départ annoncé. Boeing dit aussi que Larry Kellner, le président du conseil d'administration, ne sollicitera pas de nouveau mandat à la prochaine assemblée générale. Et le signal le plus important encore pour les clients de Boeing, c'est le patron de la branche aviation commerciale, Stan Deal, qui quitte l'entreprise immédiatement. Donc ça ressemble effectivement à un vaste reset un peu de la gouvernance de l'entreprise. Et c'est une deuxième étape beaucoup plus forte en fait après le départ en début d'année du patron du programme 737 MAX. Alors Boeing effectivement considère que c'était plus tenable, qu'il fallait envoyer un signal clair à la fois aux actionnaires mais aussi aux clients et au grand public parce qu'il y a une défiance qui s'installe et donc rien de tel que le départ du PDG pour ça. En réalité, c'est un peu moins violent que ce qu'il y paraît parce que la démission de Dave Calhoun elle est pas effective immédiatement. Il va continuer à diriger l'entreprise jusqu'à la fin de l'année, donc fin 2024. Et ce que font remarquer quand même certains spécialiste du secteur, c'est que cette date finalement, elle n'est pas très éloignée de ce qui était programmé au sein de l'entreprise avant la crise. Il était prévu, ou en tout cas probable, que Dave Calhoun cède la direction générale de Boeing en 2025 et qu'il la cède à Stephanie Pop, une dirigeante du groupe qui a été nommée directrice des opérations en décembre et qui reprend d'ailleurs maintenant tout de suite là, la branche aviation commerciale.
Alors David Calhoun part, mais il reste, hein, si j'ai bien compris. On va le rappeler qu'il avait été appelé à la rescousse pour sauver Boeing lors de la crise en 2019. Véronique, comment les difficultés de Boeing sont-elles perçues aux États-Unis ?
Alors le départ du patron de Boeing, hein, même si c'est qu'à la fin de l'année, effectivement, ça fait tout de suite les gros titres de la presse américaine, hein, parce que ça rappelle la crise de 2018, quand Dennis Muilenburg avait dû quitter Boeing après les deux crashs mortels du 737 MAX, hein, de Lion Air et Ethiopian Airlines. Et puis bah, Boeing, c'est toujours une des grandes marques américaines, et donc cette nouvelle crise, bah, c'est un peu une blessure d'orgueil pour les Américains. Hein. C'est Boeing qui transporte tous les présidents, l'avion présidentiel, vous savez, le Air Force One, c'est à une puissance symbolique qui est beaucoup plus forte qu'en France, les avions présidentiels, c'est pas du tout la même chose. L'usine de Boeing à Everett, près de Seattle, sur la côte ouest, ça fait aussi partie un peu des lieux mythiques qu'il faut avoir visités. Moi d'ailleurs, j'y suis allée comme touriste l'an dernier. Les visites de groupe sont organisées par des anciens de l'entreprise. Enfin voilà, il y a une espèce de transmission comme ça. C'est gigantesque, ça fait rêver des tas de petits-enfants. C'est un peu comme les parcs nationaux ou les musées du Smithsonian sur le mall de Washington. Voilà, ça fait partie de la culture nationale. Mais l'image de Boeing, bah, elle a quand même sacrément pâli ces dernières années, et pas seulement à cause du 737 MAX. Hein. On voit que aussi à côté des avions commerciaux, bah, Boeing a une grosse activité en défense et dans le spatial. Et dans le spatial, vous avez vu ces dernières années, il y a aussi eu des couacs. SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, a réussi à faire partir sa capsule Crew Dragon dans l'espace. Quand Boeing, qui avait eu exactement le même contrat avec la NASA, a eu du mal à suivre avec Starliner. Donc pour les jeunes ingénieurs américains et même étranger, Boeing est sûrement un peu moins attirant. Tout ça fait vieillir un petit peu l'image de Boeing. Et puis si on regarde au niveau de l'administration fédérale, la Maison-Blanche a redit sa confiance dans les avions Boeing. La porte-parole de Joe Biden a dû intervenir en disant que oui, il se sentait très bien en sécurité quand il voyageait à bord de son avion. Mais Biden, dans une soirée de levée de fonds pour la campagne électorale ces derniers jours, a essayé de faire de l'humour en disant qu'il s'asseyait pas près de la porte, voilà, dans son avion. Donc c'était en allusion à la porte arrachée sur le vol d'Alaska Airlines. Alors c'était évidemment une blague, hein, c'était un contexte humoristique, mais j'imagine que du côté de Boeing, on a dû trouver ça un petit peu grinçant et amer, quoi. Et puis après, comme souvent aux États-Unis, on va certainement avoir là une série d'auditions au Congrès sur la qualité, la régulation, etc. Mais il y a quand même aussi le sentiment un petit peu dans la population qu'il se passe pas toujours grand-chose derrière, en fait. Et finalement, moi, une des choses un peu symboliques que j'ai vues là avec cette nouvelle crise, ça a été la déclaration du plus grand syndicat de Boeing, hein, l'association des machinistes, qui réclame maintenant un siège au conseil d'administration et qui dit voilà, nous devons un peu sauver cette entreprise d'elle-même, quoi. C'était une déclaration assez forte.
In NASCAR, when a car crashes, everybody loves it. But for us, it's different, and I have to accept that.
Dans les courses de NASCAR, tout le monde adore les crashs, mais pour les avions, c'est un peu différent et il faut l'accepter. L'humour noir aux dépens de Boeing, du comédien Joe Nunink, dans cette fausse vidéo d'excuses du patron de Boeing, c'est corrosif, avec par exemple cette nouvelle fonctionnalité qui permettra de connaître le statut de l'avion, savoir s'il est à l'heure, en retard ou s'il a disparu à jamais, avant de poser les yeux sur un avion en papier et de s'exclamer « Je suis sûr qu'on peut encore réduire les coûts ». Véronique, on le voit, l'image de Boeing est écornée aux États-Unis. Comment les clients de la compagnie réagissent-ils à cette nouvelle crise ?
Les clients de Boeing, alors, sont les grandes compagnies aériennes et elles sont effectivement agacées par cette nouvelle crise parce que après la pandémie, le trafic aérien est reparti en flèche. Donc, les clients ont besoin d'avions. Ils ont besoin aussi de concurrence, hein, puisqu'il n'y a que deux fournisseurs, Airbus et Boeing. Et puis, ils ont besoin aussi que leurs propres clients, c'est-à-dire vous et moi, eh ben, on n'ait pas peur quand on monte dans l'avion, qu'on ne se jette pas sur la plaquette des consignes de sécurité en se disant est-ce que c'est un Boeing ou est-ce que c'est un Airbus. Quelques patrons de compagnies ont fait part publiquement de leur mécontentement. United Airlines, par exemple, a dit qu'il allait probablement annuler une commande de 737 MAX 10 parce qu'il avait peur d'un allongement des délais de certification. Southwest Airlines, qui vole essentiellement en Boeing, a dit qu'il était obligé de réduire ses programmes de vol parce qu'il avait des commandes en retard. Delta s'est replié sur ses Airbus A321 aussi pour patienter parce qu'il y avait du retard. Donc voilà, ils sont pas contents et puis ils commencent à le dire, quoi.
Peu de douceur avec la chanson officielle du 737 MAX validée par Boeing. Elle est sortie en 2016, c'était les jours heureux. Boeing en a quand même livré 387 l'an dernier et il disposait encore d'un carnet de commandes de 4783 appareils. C'est donc un programme encore important pour l'entreprise. Bruno Trévidic, je reviens vers vous. Les déboires de Boeing font-ils les affaires d'Airbus ?
Indéniablement, même si Airbus se défend de vouloir profiter de cette situation, l'augmentation en flèche de la part de marché d'Airbus sur le segment des moyens courriers monocouloirs, ceux de le segment de marché du 737 et de l'Airbus A320, cette montée en puissance accompagne en fait la crise du 737, assez logiquement. À partir du moment où Boeing ne peut plus livrer ses clients ou les clients même renaclent à acheter chez Boeing, c'est Airbus qui en profite puisqu'ils ne sont que deux.
Oui, et surtout qu'il y a une remontée du trafic aérien.
Voilà.
Le groupe Airbus a d'ailleurs annoncé deux très beaux contrats récemment avec Japan Airlines et Korean Air, qui étaient plutôt des clients traditionnels de Boeing ?
Alors, c'est vrai des deux, mais en l'occurrence, les deux contrats dont il s'agit sont des contrats qui portent essentiellement sur des gros porteurs long courrier. Donc, je dirais que là, c'est un domaine où Boeing a encore la main, encore un léger avantage sur Airbus. Et il serait difficile, je dirais, de faire un lien entre la victoire commerciale d'Airbus sur ces deux affaires et les soucis de réputation de Boeing. Il faut quand même relativiser ces problèmes de réputation. Les compagnies aériennes n'ont que deux fournisseurs possibles, Airbus et Boeing. Les deux n'arrivent pas à répondre à la demande parce que, tout simplement, ils n'ont pas remis leur appareil de production au niveau d'avant-crise. Cette demande va rester supérieure à l'offre de la vie générale pendant plusieurs années encore. Donc, en gros, la première chose que demande une compagnie aérienne, c'est qu'on la livre. Et évidemment, au meilleur prix. Je n'ai jamais rencontré de patron de compagnie aérienne qui me dise « j'achète plus chez Boeing parce que leurs avions ne sont pas sûrs ou seraient moins sûrs que ceux d'Airbus ». Ça, c'est une question, d'abord, c'est une question taboue. Ensuite, les avionneurs peuvent avoir chacun leurs problèmes. Il y a pas de remise en cause, littéralement, je dirais, définitive, fondamentale du niveau de sécurité de l'un par rapport à l'autre.
L'action Boeing perd 25% depuis le début de l'année, 50% sur 5 ans, quand Airbus gagne 20% cette année et 40% en 5 ans. Boeing ne pèse plus que 114 milliards de dollars en bourse, presque 35 milliards de moins que son concurrent européen. Jamais dans l'histoire, l'écart n'avait été aussi grand au profit d'Airbus. Bruno, comment Boeing peut-il restaurer la confiance des marchés, mais aussi de l'administration américaine, des clients et peut-être des utilisateurs ?
Pour ce qui est de la confiance des clients, tous les clients demandent à Boeing de lui livrer les avions commandés en temps et en heure. Donc, restaurer la confiance des clients, ça veut dire, pour une compagnie aérienne, assurez-moi que mon avion va arriver et que je vais pouvoir le mettre en ligne et assurer les liaisons que j'ai prévues et les vols que j'ai déjà vendus. Ça, c'est le premier point. Concernant les investisseurs, les actionnaires, pendant longtemps, Boeing valait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher qu'Airbus. Aujourd'hui, effectivement, on est devant un fait assez rare, c'est que, alors même que le périmètre industriel de Boeing est beaucoup plus large que celui d'Airbus, puisqu'ils sont également très puissants dans la défense et dans l'espace, effectivement, Airbus vaut plus. Alors, il y a 36 explications à cela. Le principal fait, c'est qu'au-delà de ce problème de qualité et de production, Boeing n'est pas capable de dire à ses investisseurs quelle sera sa stratégie pour les prochaines années. Et c'est l'une des clés, d'ailleurs, du changement de management en cours. Il ne s'agit pas uniquement de réparer ce qui est cassé ou de remettre en marche cette machine à produire des avions. Il s'agit également de dire sur quand et sur quoi Boeing va investir pour restaurer son leadership sur les segments de marché où Airbus a pris la main, à savoir quand est-ce que Boeing va sortir un successeur au 737 et est-ce qu'il en a les moyens. Ce qui est sûr, c'est que ça va coûter beaucoup d'argent et que quand on investit 10, 15 milliards de dollars dans un nouveau modèle, ça sera plus difficile de distribuer des dividendes aux actionnaires comme ils avaient pris l'habitude de le faire. Donc, du point de vue de l'investisseur, je ne sais pas où va l'entreprise, mais je sais que les dividendes vont se faire rares. Pourquoi vous voulez que je mette mes économies chez vous ?
Et Boeing va devoir agir, vous l'avez dit. Il réfléchit à une prise de contrôle de son sous-traitant, Spirit AeroSystems, avec l'objectif de renforcer la qualité des avions commerciaux. Un dernier mot, Bruno. Qui pourrait remplacer Dave Calhoun à la fin de l'année ?
Gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, le point d'interrogation ne se limite pas au successeur de Dave Calhoun, parce qu'en général, aux États-Unis, quand il y a un nouveau CEO, enfin un nouveau directeur général, tous les directeurs généraux présentent leur démission et une bonne partie de l'équipe change. C'est un peu la tradition là-bas. Donc, s'agissant de la succession de Dave Calhoun, ce dernier a semble-t-il, poussé jusqu'à présent la candidature d'une femme, Stephanie Pop, qui était jusqu'à présent directrice de l'exploitation et qui a pris du galon au dernier remaniement, puisqu'elle est devenue directrice de la branche Boeing Commercial Aircraft. Elle serait donc apparemment bien placée pour succéder. Encore faut-il qu'elle arrive à faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de rétablir la situation dans la branche principale Boeing Commercial Aircraft, c'est-à-dire commencer par effectivement être capable de livrer les clients et de leur dire précisément quand est-ce qu'ils sont livrés. Si elle y arrive, elle a toutes ses chances, mais si elle n'a pas fait ses preuves, rien n'indique qu'elle soit la candidate favorite des marchés, des investisseurs et puis des salariés également. Il y a une aspiration qu'on entend assez souvent chez les gens de Boeing et puis ceux qui parlent pour les gens de Boeing, de revoir aux manettes de l'entreprise des ingénieurs, des gens qui fabriquent et non plus des financiers. Ils ont le sentiment, effectivement, que Boeing a trop souffert de cette espèce de financiarisation de sa stratégie. Donc, c'était le cas de Dave Calhoun, c'était le cas de son prédécesseur qui venait de la finance. C'est également le cas de Stephanie Pop. Elle n'est pas ingénieure, elle vient plutôt du monde de la finance. Et son parcours au sein de l'entreprise, bon, sans être déshonorable, n'est pas non plus celui d'une dirigeante désignée. Elle a, jusqu'à présent, elle a géré des services des branches de Boeing qui étaient relativement mineures. Donc là, c'est l'heure de vérité pour elle, mais elle aura assez peu de temps pour faire ses preuves. Et il n'est pas dit que finalement, la solution choisie soit pas par le conseil d'administration, je dirais de faire table rase du passé, de donner un signal fort et de mettre aux manettes du groupe un homme ou une femme issue de l'industrie qui également arrivera avec sa nouvelle équipe.
Merci Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York. Merci aussi à Bruno Trévidic, spécialiste de l'aéronautique. Vous pouvez retrouver son papier à quatre mains avec Yann Rousseau sur les contrats d'Airbus auprès des compagnies asiatiques. On vous met le lien dans le descriptif de cet épisode. Et pour prolonger votre expérience et profiter de l'essentiel de l'actualité, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien dans la description ou en vous rendant sur abonnement.leséchos.fr/la-story. Merci enfin à Willy Gann, à la réalisation, et à Michel Varnet, chargé de production et d'édition.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.